Bonsoir, merci beaucoup pour l'exposé en chanson. Et ma question, elle relevait de. Vous parliez du changement des canaux de communication de ces chansons. Vous décriviez l'histoire de Sète avec bon, la fête au village, avec toutes ces chansons, le village paysan, ouvrier, etc., et ses solidarités. Et vous dites qu'aujourd'hui, elle est toujours aussi vivace. On a compris à travers le milieu des joutes, si je comprends bien. Mais en dehors du milieu des joutes, pour vous, où est-ce qu'elle vit encore la transmission de ces chansons, où elle se crée? Si ce n'est dans les joutes, vous parliez des bars, j'avais l'impression, donc j'ai eu du mal avant.
Oui, enfin, oui, tu peux parler déjà. Moi, je peux dire déjà le milieu de certains rituels qui sont encore vivaces, comme le rituel de la Saint-Pierre. Hein, par exemple, le carnaval aussi, où nous avons encore collecté de nos jours des chansons hein, qui accompagnent un des jeux carnavalesques qui est quand même rare hein, ici en Languedoc, mais qu'on retrouve encore à Sète, qui se fait, qui est le bernage. C'est un jeu qui est resté ici, hein, au carnaval. Alors qu'il a disparu, par exemple, à Montpellier hein, ou dans beaucoup d'endroits, ce sont les gens de la Pointe-Courte qui l'ont gardé. Quand ils font carnaval, ben, le bernage, c'est un jeu très ancien qui remonte au Moyen Âge, un jeu chanté, et d'ailleurs qui est toujours chanté encore à l'heure actuelle, par exemple au carnaval à Sète, par les gens de la Pointe-Courte. Il s'agit de prendre une vaste toile, très très vaste toile, de mettre au milieu le bonhomme carnaval qui est fabriqué, ou la bonne femme carnaval, enfin. Celui qui va représenter le carnaval. Et le bernet, c'est le faire sauter très très haut, par exemple, au son au rythme de cette chanson qui est très sétoise, que tout le monde connaît ici quand on est occitan et qu'on s'intéresse aux jeux comme ça de carnaval. Et qui est très vivace, par exemple, c'en est une, hein, un endroit où on retrouve ce jeu de façon très 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 active. Hein. Ils le font toujours. La chanson fait Yeutefa. Alors ils le font plusieurs fois, puis après ils disent à la une, à la douce, à la treize, et tout le monde envoie la pépette en l'air le plus haut possible. C'est des hommes qui le font. Après, on le reprend avec les enfants facilement, parce que les enfants adorent le faire aussi, mais c'est vraiment des gens musclés. Alors, c'est vrai qu'on s'est posé la question aussi, quand même, les femmes à Sète, quel est le rôle des femmes dans la chanson? On a quand même, moi-même, hein, j'ai constaté qu'il y a plus d'hommes qui chantent que des femmes. Ça, vous verrez dans le livre, on a beaucoup enregistré des hommes, beaucoup moins de femmes. Pourquoi? On ne sait pas encore. Il faudrait refaire encore un collectage. On a fait 3 ans de collectage, mais il faudrait retourner. Bon, après, le rituel de la Saint-Pierre, tu peux en parler aussi, où on chante la fameuse chanson de la Saint-Pierre, qui est vraiment
cantique.
Totémique.
Bon,
Hein, c'est une chanson totémique.
Voilà. C'est un cantique religieux, c'est le cantique à Saint-Pierre. Et puis les pêcheurs qui vont chanter plutôt des chants italiens, justement. Mais ça va être, c'est pas public, c'est au moment où ils partagent un repas après la fête, donc ils vont plutôt chanter entre eux des chants italiens. Mais sinon, la question, elle est tout à fait pertinente parce que c'est vrai que quand on a voulu rassembler les comités de quartier en demandant aux gens, bon bah alors. Qu'est-ce que vous chantez? Quelles sont encore les personnes qui chantent? Souvent, on nous a dit, ah, oh, mais non, mais il n'y a plus personne ici, au quartier haut, même, on nous a dit ça, même à la pointe. Les anciens sont partis, il y en a qui sont. Et puis, ça s'est pas poursuivi, quoi. Donc, effectivement, il y a quand même un problème de transmission. Et ces canaux de diffusion qui étaient la famille, certains métiers, les tonneliers, par exemple, étaient réputés pour être une corporation qui chantait énormément. Donc ici, c'était la tonnellerie bois, hein, bien entendu, hein, pendant très longtemps. Et puis après est arrivée la tonnellerie métal. Et puis ensuite, le ciment, puis la résine. Enfin, tous ces containers. Donc le métier de tonnelier bois, il a disparu. Et puis après, il y avait besoin de moins en moins de gens. Enfin, c'était plus le même métier. Donc cette corporation, elle a disparu. Et les chansons, pratiquement, ont disparu avec eux. Enfin, on n'a pas eu. À part des chansons écrites assez récemment, c'est-à-dire il y a une centaine d'années, on n'a pas eu de chansons de tonneliers alors qu'ils étaient réputés pour chanter beaucoup. Donc c'est la question qu'on s'est posée, quoi. Parce qu'il y avait des envies, il y a des gens qui avaient des envies de créer des petits groupes en disant tiens, on n'a qu'à les chanter sur le port, on n'a qu'à les chanter sous les halles, on n'a qu'à les chanter dans des bars. Mais ils n'avaient pas l'outil, donc où trouver les chansons, comment faire, comment s'y prendre. Il manquait en fait le début de la bobine, quoi, de fil pour tirer. Donc c'est là que nous est venue aussi cette idée. Elle est aussi née des attentes de la communauté elle-même. Parce que, comme j'expliquais, les chansons, elles sont disséminées dans les familles. Elles vont se chanter dans un cercle familial, dans un cercle d'amis, dans une corporation, dans les joutes.
Le plus,
et là, on a voulu en fait les rassembler toutes pour mettre cet outil à la disposition de tout le monde. Et on a créé des ateliers, on a appelé ça partage de chansons, parce qu'on ne veut pas être que des transmetteurs, on veut que ce soit dans une dynamique d'échange. Parce que nous, on va arriver avec notre livre, mais il y a des gens qui vont nous dire « Ah ouais, mais moi, je connaissais celle-là, ça vous intéresse de l'apprendre ?» Donc, on va vraiment partager des chansons. Donc, on l'a fait dans des foyers résidences. Là, on va le faire à la Palanquée, par exemple, à partir du mois de mars.
C'est pour des enfants,
on l'a fait pour les enfants des enfants autistes qui sont reçus dans un centre aussi de jours où ils viennent passer la journée avec des activités. Donc, on va essayer de démultiplier un petit peu. Mais c'est juste être des détonateurs, puisque bon, maintenant, l'outil existe. Chacun pourra se l'approprier. Le conservatoire commence à se l'approprier pas mal, à créer une classe de chansons sétoises, par exemple. Donc, l'outil va circuler. Les gens vont se l'approprier. Et la diffusion va se refaire comme ça, petit à petit, sous des formes aussi peut-être nouvelles. Hein, je ne sais pas.
Une question. Il y a un chanteur qui est hyper connu, qui vient de Sète, qui s'appelle Georges Brassens. Est-ce que vous considérez qu'il s'inscrit dans cette tradition ?
Alors qu'en partie, c'est pour ça que j'expliquais au début la différence entre la pratique chansonnière et puis vraiment le travail de l'auteur-compositeur-interprète qui va écrire pour lui. Donc Brassens, il a fait carrière pour lui, même si par retombée, par notoriété, là, c'est sûr que les Sétois s'approprient tout le patrimoine de Brassens, et tout le monde ici connaît son Brassens sur le bout des doigts. Mais par contre, il ne s'inscrit pas vraiment dans cette pratique chansonnière.
Oui. Enfant, est-ce qu'il aurait participé à cette culture-là ? Et après, il aurait fait son chemin avec. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est, en quelque part, inscrit dans une pratique ? Alors, je pose la question parce que je suis de Brest.
Ouais.
Et qu'on chante beaucoup chez moi, j'ai ouais. migré ailleurs. Il y a presque
une chanson dans la collection là.
Ouais. Et donc bon, ça me parle ce que vous racontez, ouais. Mais en fait, ça c'est devenu autre chose aujourd'hui. La chanson, les Canadiscan, toutes ces choses là qu'on chantait à Brest, devenu autre chose.
Oui,
avec un Miossec par exemple qui chante Brest autrement. Donc je me demandais, est-ce que on peut considérer qu'il a lui aussi pratiqué ça et qu'il en a fait sa propre histoire ?
Pas vraiment. Pas vraiment. Après, il y a quand même, on a repéré les influences sétoises chez Brassens. Par exemple, on a repéré les influences italiennes dans certaines mélodies. Voilà. Enfin, on a repéré pas mal du fond. Il y a forcément une influence, hein. Mais dans sa pratique à lui, moi, je trouve que ça se rattache pas à la pratique chansonnière. Dans le sens où il n'a pas parlé de ce quotidien des gens. Il a créé autre chose. Il a créé une chanson nationale, enfin bon, même internationale, mais enfin qui parlait à l'ensemble de la nation française. Et alors que là, ce que j'expliquais au début, c'est que ces chansons-là, elles auraient du mal à s'exporter. Lou Grand Laser, on ne va pas faire un disque d'or avec, quoi, par exemple. Ni à Balabal. Donc, je pense que c'est deux voix qui sont un peu parallèles, qui n'ont pas trop vocation à se rejoindre, quoi. C'est en ça qu'on dit que Brassens ne s'inscrit pas dans cette tradition chansonnière. Et puis en plus, à dessein, on ne voulait pas non plus en faire l'arbre qui cache la forêt. C'était aussi voulu de ce côté-là. C'est pour ça qu'on n'a mis qu'une chanson dedans, qui n'est pas de lui d'ailleurs, qui fait plus... chanson sétoise locale, parce que c'est une chanson grivoise, mais en fait elle est connue dans toute la France.
Qui chante lui-même.
Qui chante lui-même, oui.
Moi j'avais une question sur. Vous avez parlé des chants de métier, mais quand même, enfin globalement, c'est les quelques airs ceux que vous avez fait, ceux qu'on entend, c'est quand même souvent, oui, on pense plutôt à des chansons de baraquettes ou qui parlent d'amour ou qui galègent ou qui. Et est-ce qu'il y a des chants de travail au sens genre pour rythmer le travail, pour des chants qu'on chantait en travaillant? Vous avez parlé des tonneliers, visiblement, ouais, peut-être, ouais. Mais je pensais par rapport aussi aux marins et voilà. Et est-ce que vous en avez collecté?
Non, il n'y a pas ici. Il n'y a pas du tout, par rapport à Brest et à la Bretagne, par exemple, on ne va pas avoir des champs à virer, on ne va pas avoir des champs. Déjà, on n'a pas de champs à répons. Il n'y a pas du tout de tradition de champs à répons. On n'a pas trouvé. Ouais, mais l'Outounalier, alors on a une chanson, mais ce n'est pas une chanson de Tonnelier, c'est l'Outounalier. C'est une chanson qui parle, où c'est un fait libre, qui décrit le travail du tonnelier et qui décrit toutes les qualités que doit avoir le tonnelier, mais ce n'est pas du tout une chanson que les tonneliers chantaient eux-mêmes. Donc, ce qu'ils chantaient, je ne sais pas ce que les tonneliers chantaient. Ils sont réputés, voilà, on sait qu'ils étaient réputés pour. Mais en général, les chants de métier ne sont pas forcément des chants qui vont parler de ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc ça peut être un chant grivois qui sert à taper avec le marteau. Les scieurs de long, oui, c'est des...
Mais
ici, des chansons de scieurs de long, on va les avoir plutôt là où on coupe le bois, vraiment, par exemple, dans les Cévennes, dans des endroits comme ça. Là, ici, on n'a pas vraiment, comme le chant de marin, ici, ça n'existe pas. On n'a pas du tout de chant de marin. Là, les marins, ils chantaient... Ils chantaient qu'ils avaient envie de revenir à Sète, qu'ils avaient laissé leur femme et leur enfant là-bas, qu'ils espéraient les retrouver en bonne santé. Ou ils chantaient des chants pour faire danser tout le monde sur le bateau. Mais y a pas de, on a pas de, déjà, il n'y avait pas de marine au long cours. Les gens, ils partaient pour une journée, quoi. Donc, on n'avait pas les gros bateaux, du coup, des gros voiliers, des trois mâts.
Du coup, je trouve que ça fait vraiment... et puis, ça fait quoi, parce que, plein d'aspects de la culture sétoise, mais que ça se prête encore plus facilement à une forme d'auto-folklorisation où on exagère, où on raconte des histoires, etc. Beaucoup plus que des choses qui feraient plus ethnologiques, en tout cas, qui paraîtraient plus sérieuses. Là, il y a vraiment toujours le côté chez nous de se moquer de nous-mêmes beaucoup et d'accentuer du coup le regard. Moi, je trouve, avec une forme de risque aussi un peu. Pour les gens, par rapport au regard des gens de l'extérieur, que ça fait de suite très très folklore, un peu ridicule, quoi.
Ouais, alors ça peut, mais en fait.
Pour nous, non, bien sûr.
Mais... Oui, non, mais c'est que, en fait, nous en France, on a un concept de folklore qui est différent du reste du monde. Chez nous, le folklore, il apparaît sous Napoléon III, quoi, vers 1870, parce que Napoléon III, c'est lui qui a lancé les premières campagnes de collectage un petit peu partout. Donc il a récupéré via des informateurs partout en France, dans toutes les régions de France. Donc il a récupéré plein de chansons et qui, en gros, il a fait reformuler de manière nationaliste, parce que l'idée, c'était de rassembler la nation aussi. Donc et il a dit c'est ça. Il a donné une image du costume aussi, des danses, de la chanson, une image figée à une certaine époque. À cette époque-là, il a dit la culture de nos belles provinces de France, c'est ça, c'est pas autre chose. Et donc c'est resté figé comme ça. Et les groupes folkloriques, ils vont reproduire ce qui a été fixé à cette époque-là. Ils vont pas, les groupes folkloriques, ils vont pas introduire le synthétiseur ou des scratchs dans leur musique, par exemple. Ils vont rester figés, alors qu'autrefois, ça se faisait. Nous, le concept de musique traditionnelle, les anciens, quand on parle de musique traditionnelle, pour eux, ça ne veut rien dire. Hein. Au hautbois, ils jouaient, quand les Américains sont arrivés après la guerre de 14, ils jouaient les Charleston au hautbois. Ils ne réfléchissaient pas si c'était traditionnel ou pas traditionnel. Et puis, pareil pour la chanson. Les gens chantaient les chansons à la mode. Les jouteurs nous disent « Joue-nous les lacs du Connemara », par exemple, au hautbois. Ils vont nous sortir... par contre, ce qui est folklorique, c'est quelque chose qui va être figé à une certaine époque et puis qui va être vécu comme avec une distance aussi. C'est-à-dire que le folklore, c'est un spectacle. On le regarde, on est là, on consomme. Alors que dans cette pratique, même qui peut paraître peut-être folklorique, elle est vraiment vécue et vécue d'une manière tellement intense que c'est plus du tout du folklore. Même si les speakers aux joutes, ils vont dire « Ah, les joutes, notre beau folklore ». Bon, il y a des gens qui... il y a un petit peu deux niveaux d'utilisation de ce terme-là. Il est un peu à double tranchant.
Ouais. Après, j'avais une question sur les pratiques d'écriture. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec les personnes qui écrivent des textes ? C'est quand même un travail. Même si, donc, les contextes dans lesquels ça s'opère, si c'est vraiment quelque chose...
d'individuels ou parfois aussi de collectifs, parce que bon, vous avez parlé de signatures, enfin quand même, mais peut-être qu'aussi, et je voulais un peu plus loin, c'est-à-dire dans la place que ça permet de prendre finalement. Comment ça permet, je pense, aux personnes qui vont donc signer leur appartenance au groupe et peut-être devenir un peu plus. Donc, quel statut on peut identifier finalement à travers ce travail-là d'écriture, qui est une pratique populaire, mais c'est quand même un travail d'écriture, ou pas ?
Ils n'en parlent pas tellement, en fait. Ils ne l'évoquent pas tellement. Pour eux,
il écrit beaucoup, mais il y en a d'autres qui ont hérité de ça.
Oui, il y a un héritage, il y a une filiation qui se fait. Ils écrivent des chansons, par exemple, ils vont écrire une chanson avec une morale. Parce qu'ils savent qu'autrefois, dans les chansons, il y avait une morale. Donc ils vont reprendre des canevas dans l'écriture. Mais l'individu s'efface derrière, en fait. Il s'efface vraiment derrière son sujet. Il s'efface derrière la communauté à laquelle il s'adresse. Et finalement, pour lui, l'écriture, ça ne va pas être vraiment une œuvre. Il n'en parle pas comme d'une œuvre individuelle, comme une œuvre. Il fait une chanson comme il préparerait un plat, par exemple, un plat de cuisine. C'est un acte du quotidien pour lui. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qu'on a voulu. C'est cette œuvre-là qu'on a voulu faire à travers l'ouvrage. C'est renvoyer aux gens l'importance et la richesse de tout ce répertoire qu'il véhicule. Parce que les gens, ils n'en ont pas conscience, quoi. Ils chantent deux, trois chansons dans un banquet à un endroit, et puis d'autres chantent deux, trois chansons derrière le bateau à la Saint-Pierre en italien. Et les gens ne se rendent pas compte, tout ça, ça représente un corpus qui fait patrimoine et qui est immensément riche et qui est plein de sens. Ils n'ont pas cette conscience-là. Pour eux, c'est une pratique, c'est un acte du quotidien. Et ils vont écrire une chanson comme ils prépareraient un plat de cuisine ou comme ils iraient à la pêche ou comme ils iraient pique-niquer au Brise-Lame. Pour eux, c'est un acte. Vraiment un acte.
Oui, mais c'est peut-être pas. Enfin, après, je sais pas, ça mériterait de. Mais c'est peut-être. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes, quand même, bon, du coup, ça interroge, parce que si on est dans des pratiques populaires, de groupe, etc., les femmes, visiblement, je pense qu'elles sont présentes. Donc c'est pour ça. Et une autre question qui me vient aussi, c'est est-ce que, du coup, il y a des chansons. Alors, comment dire, soit qui racontent des anecdotes, des petites, enfin, qui permettent de régler des comptes un petit peu, ou de dire, de résoudre des problématiques un petit peu de conflits, je ne sais pas, dans les groupes ainsi constitués. Hein, vous parlez beaucoup des joutes, mais peut-être il y a d'autres. C'est peut-être une joute en soi, finalement, la chanson, je ne sais pas.
Oui, il y a plusieurs types de chansons. Il y a des chansons qui vont. Il y a beaucoup de chansonniers, quand même, qui adorent. Mettre en scène leur ami, un copain. Souvent, c'est vrai, c'est beaucoup entre hommes. Franchement, c'est vrai. Et donc, ils vont décrire cette personne à travers une anecdote qu'elle a vécue. Hein. Il y en a plusieurs comme ça. Hein. Pour faire rire tout le monde, pour se moquer un peu du copain, mais gentiment quand même aussi, parce que c'est une façon de l'aimer aussi, cet ami-là. Même si ça le met un peu, des fois, dans une position ridicule. Il y a, bon, déjà, il y a, dans les chansons, dans l'écriture qui est individuelle, pas collective, quand ce n'est pas un rituel. Bon, si c'est une chanson rituelle, elle est très ancienne, on ne sait plus qui l'a écrite, mais elle semble collective. Mais la plupart des chansons sont très individuelles et parlent vraiment. Bon, Gilbert Lombardo, qui en a écrit, il est arrivé avec au moins une centaine de chansons, toutes vont décrire quelqu'un qu'il a connu. Ça va parler de cette personne.
C'est une liste de gens,
C'est même de plusieurs personnes. Il fait la liste de toutes les personnes qu'il a connues à travers une seule chanson. Il met un couplet par chaque personne qu'il a connue. C'est à la fois un petit peu moqueur, un petit peu affectueux. Il met en scène, c'est pratiquement des chansons, je dirais, de mise en scène de la vie des gens qui vivent avec eux. Est-ce que c'était, on peut penser au théâtre un petit peu, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment une idée. Ce sont des portraits. La plupart de ces chansonniers mettent en scène une personne. Je pense aussi à Jean-Louis Sardoni. Il met en scène, par exemple, une femme qui a eu. Oui, la vieille. Voilà, il y a des types de. C'est beaucoup des portraits. Hein. La vieille fille, voilà. Il y a une chanson sur la vieille fille. C'est très rigolo. Bon, c'est pour faire rire. Mais en même temps, c'est vraiment très. On pourrait le voir. C'est proche de la peinture. C'est proche d'un tableau. Ce sont des tableaux. Et il va donner. Oui, c'est très descriptif.
C'est plutôt pacifique en général.
C'est pas méchant, c'est pas pour critiquer.
Par exemple, il y avoir une chanson sur Boule, celui qui tient le bar à côté de la mairie, voilà, que fait Jean-Louis Sardoni. on est plutôt vraiment dans de la mythologie, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils vont prendre une carrure mythologique. Et dans le règlement, à part une chanson ou deux politiques qu'on a trouvées, qui avait été faite après des élections municipales, donc contre la mairie, qui était plutôt pamphlétaire, quoi, où on se moquait de l'équipe adverse. Mais sinon, on n'a pas vraiment trouvé non plus...
C'est assez bon enfant, même si par moment, la critique va loin, mais elle reste toujours bon enfant. C'est jamais... dans toutes celles que nous avons collectées, hein, on n'a pas tout fait, hein, mais le portrait qu'on peut en tracer, c'est quelque chose quand même de très amical. Ça va du mythologique à l'amical, mais c'est toujours pour se dire « je fais partie d'eux, ils font partie de moi ». Parce que parler de l'autre, c'est aussi parler beaucoup de soi. On le voit quand Jean-Louis...
Oui. La parole, mais juste, ça permet de... Parce que le travail que vous avez fait, donc, met en valeur ce qui... En tout cas, ce qui est resté, mais... Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a peut-être des chansons qui ont été peut-être un peu mises de côté. Voilà, parce que... Non, mais je veux dire, s'il faut correspondre à un style à ce moment-là... Ça veut dire qu'il faut, vous voyez, si vous identifiez un style dans ce registre, enfin dans ce répertoire, c'est que il y a une forme de non, mais en tout cas il y a des formes de normes, c'est trop fort, mais enfin en tout cas c'est un style. Enfin, on est dans un style qui s'élabore collectivement, en fait. Voilà.
C'est vrai que les femmes, elles restent encore, qui nous ont livré des chants, ce sont souvent des chansons d'enfants. Donc, est-ce qu'elles restent encore dans ce registre de la, vous voyez, qu'on donne à la femme de façon classique? Je pense qu'elles chantent autre chose que peut-être elles n'ont pas osé chanter. Et, je crois qu'il y a encore à chercher du côté des femmes. Oui.
Moi, j'avais une question sur l'immigration, puisque vous avez dit que finalement, Sète, c'était... un creuset incroyable. Et donc, est-ce qu'il y a des chansons qui racontent ces pays, la venue, les allers-retours est-ce que... Là, je reviens encore à la Bretagne. En Bretagne, on parle de ces gens qui partent à Paris, qui vont voir, soi-disant, la lumière, etc. Et ils regrettent finalement d'être allés là-bas parce que c'était nul, c'était beaucoup mieux de rester à Brest. Est-ce qu'il y en a? Ça, c'est une des choses. Et pour revenir sur ce que disait Gaëlla sur la contestation du monde, je pensais au Iragash Malgache, où en fait, c'est un peu du rap traditionnel, où en fait, ils chantent à plusieurs. Il s'est passé quelque chose dans la communauté villageoise et on n'est pas d'accord et on va le mettre en chanson et on va le rendre digeste, je dirais, par la chanson. Donc, deux choses sur la question de l'immigration. Est-ce que Sète pourrait être un modèle de tolérance, de multiculturalisme dans la société contemporaine par les chants? Et puis, est-ce que c'est un endroit où aussi on dit les choses par les chants?
À part cette si belle sur la mer où le gars est allé à Paris et qu'il a... Il a espéré toute sa vie venir passer sa retraite à Sète. Bon, ce qu'il a fait, et puis finalement, sa retraite, elle n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Mais bon, il était monté à Paris aussi, parce que pour le boulot, il créait un cabaret. C'était un meneur de cabaret, donc il avait créé un cabaret à Paris. Donc il a souffert de cet éloignement. Mais sinon, on n'en trouve pas tellement. Les chansons vont plutôt exalter le fait de rester ici. Et les Sétois, ils restent ici. Je le raconte des fois... On devait présenter un autre de nos livres à un festival qui est à peu près à 40 km d'ici. Et puis on arrive au bistrot, on rencontre deux copains sétois qui buvaient un coup. On était très en avance, hein, ça devait être que le soir, donc c'était à peu près 15h. On boit un coup avec eux, on parle. Ils étaient venus exprès pour le festival qui avait lieu le soir. À 15h30, ils ont dit... Ah, c'est trop long, là, on se languit. Hein. Ils sont repartis à 7, ils n'ont jamais vu le festival. Donc, ils restent quand même ici. Et c'est vrai qu'ils ne parlent pas tellement de l'éloignement. Et même l'arrachement, en fait, il se vit autrement. Il se vit à travers l'exaltation du lieu. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais dire « Ah, on regrette là-bas le... ». Bon, à part vraiment les chansons napolitaines comme « Santa Lucia Lontana ». Mais sinon, ils ne vont pas parler de « Ah, je suis parti de là-bas, et c'est dur, j'ai quitté ma patrie, enfin, quel malheur et tout ça ». Ils vont plutôt exalter tout ce qui se passe ici, quoi. « Ah, on est bien quand même ici,
par contre,
c'est
ce qui
super ».
Ce qui est dur pour eux, c'est de partir en mer. Ils adorent partir en mer, mais ils adorent revenir. Par exemple, là, cette chanson, « Le Mouro de Port », elle est très parlante parce que ils prennent le bateau, ils vont en mer, tout ça. Mais ça durait même pas une journée. Et puis quand ils reviennent, puis tout à coup, Sinclair qui se dessine, c'est la jetée, l'épi, puis le port. Ah, quelle joie de revoir la consigne. Ils ne sont pas partis longtemps. Et, mais on est sauvés. Zou, encore un effort, ils sont allés pêcher pas loin. Dans le bassin, alors là, c'est le rêve, sous le soleil qui plombe sur le port. Nous étendons nos filets sur la grève et nous vivons tous en famille à bord. Voilà pourquoi tous les pêcheurs de Sète en sont si fiers de leur petit trésor. Baotres Jusses d'Imbostra Baraqueta, Naotres gardant notre amour et des ports. Ils aiment énormément. C'est vrai qu'il y a une exaltation permanente chez tous les chansonniers qu'on a rencontrés de vivre ici. De vivre ici, tel qu'ils vivent, avec les gens qu'ils connaissent, qu'ils chantent. C'est vraiment un esprit, on a qualifié ça d'un corps communautaire. Ils font vraiment corps communautaire, tel qu'on peut le rencontrer peut-être encore dans des tribus lointaines ou quand quelqu'un a mal, tout le monde le ressent. C'est plutôt ça qu'ils écrivent dans les chansons. S'ils parlent de quelqu'un qui souffre, ils le ressentent aussi. C'est vraiment, il y a quand même une qualité qu'on a retrouvée ici, qu'on ne trouve pas partout, c'est cette notion de corps communautaire. Ils font un seul corps. Si quelqu'un s'en va et qu'il revient, tout le monde est content. S'il s'en va, tout le monde souffre. C'est toujours cette description de parler de l'autre pour parler de soi, mais dans l'ensemble. Ce n'est pas une création individuelle. C'est une création individuelle collective. C'est, vous voyez, c'est-à-dire, c'est soi qui parle, mais de la collectivité, de ce corps communautaire. Oui.
C'est, vu la, comme elle est neuve, 7 ans, c'est une,
oui.
une jeune femme. Et c'est une jeune femme qui elle arrive au moment où on passe du chant, hein, le chant traditionnel qui n'a pas couplet, refrain, mais qui c'est à la chanson. Et donc, à l'avant-garde, les marins qui arrivaient, ils étaient toujours friands quand ils embauchaient des marins qui venaient d'Italie pour les dernières chansons qu'on appelait. On a chanté Caruso sur les bateaux. C'est assez hallucinant. Et un des divas, il y a des divas, des gens qui sont hyper connus que même en Italie, plus personne ne les connaît, mais parce qu'ils sont arrivés avec les marins. Donc c'est la chanson, on n'est pas dans le chant, relatif au rituel que peut-être on peut trouver dans les, dans les jeux des sept,
oui, voilà,
des carnavals.
Par exemple, après, ils ne sont pas très nombreux quand même. Mais
voilà,
oui.
On est dans un autre, et donc dans là-dedans, il y a un grand épanouissement en utilisant ce cadre-là, que c'est vraiment celui de la chanson, qui est très... très 1800, hein, 1800, début 1900. Hein.
C'est ça. Chanter, c'est presque se parler à soi-même, hein, on trouve pour Laissez toi. C'est vraiment se parler à soi-même. Oui, c'est comme un langage intérieur qui est partagé par tout le monde.
Ça, on le voit dans, par exemple, la berceuse sétoise, c'est sur l'air de la Paimpolaise. J'aime cette... Alors le gars, il est parti quand ? Pour servir dans la marine. Le bon sétois quitte son port en voguant vers le ciel de Chine. Il chante comme un réconfort, ce petit refrain dans le clair matin. Ce petit refrain dans le clair matin. J'aime cette et sa montagnette Saint-Louis et son
c'est
vieux
très
bourdon.
Naïf,
j'aime autant ma pitchounette qui m'attend dans son récanton. Voilà, il pense qu'à sa copine qui l'attend là-bas à la maison.
Et à Sète aussi. À Sète, presque vécu comme un lieu très protecteur, très paradisiaque, très enveloppant.
Comment ? Oui, c'est quelqu'un qui est parti.
Ces chansons-là, les chansons où on exalte un pays, c'est quand même souvent parce qu'on n'y est plus.
Oui, et eux, ils y sont tout le temps. À peine ils le quittent, mais ils veulent y revenir.
J'en suis pas si sûr.
Il y a un lien, c'est un port d'attache.
Ce gars-là, il était vraiment embarqué sur un bateau de la marine quand il a écrit ça, sans doute. Ou alors. Non. Non, mais comme les chansons qui chantent l'Auvergne, qui ont été écrites par des gens qui étaient à Paris, comme les chansons qui chantent la Bretagne, qui ont été écrites par des gens qui étaient à Paris, je pense qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont dû être écrites par des gens qui étaient plus loin, qui étaient partis. Ouais. Et voilà, qui exaltent
c'était
du coup.
Vraiment un port d'attache, ici.
Elle est anonyme, en fait. C'est vraiment, il y en a beaucoup qui sont anonymes, en fait, qui sont...
On pourrait chanter, on pourrait finir, parce qu'il va falloir qu'on finisse la discussion, en tout cas... formel. Et on pourrait chanter Montpellier la surdouille. Ça serait quand même bien, non ? Oui. Ah oui, oui.
Ah oui.
Je sais plus quelle page.
Alors, on va regarder.
Moi, je la connais.
Oui.
Ah oui, allez-y.
Il y a beaucoup de questions encore hein, à traiter.
C'est juste par rapport à cette communauté que vous décrivez très très bien, je vous en remercie. Comment est-ce qu'elle va résister, ou comment est-ce qu'elle résiste, parce que c'est déjà en cours, à l'afflux déjà
de demain nous appartient
non mais de je veux dire de oui. De parisiens de enfin beaucoup de gens viennent s'installer à Sète, et aussi parce que il y a quelque chose qui s'est transmis entre générations hein, et justement du fait que quand même la nouvelle génération elle échappe parce qu'elle est happée par une mondialisation de la culture. Ouais. Voilà. Ce que je me demande, c'est comment il résiste, ce patrimoine précieux hein.
Il résiste. Comme à Pézenas, ouais. Comme à Limoux, Sète fait partie de ces lieux qui résistent parce qu'ils ont quand même un cœur qui bat, qui est très fort. À Sète, vraiment, c'est parce qu'il y a les joutes. Les joutes, c'est quand même excessivement le cœur, un cœur qui bat encore très, très fort. Avec énormément de pratiques, de répertoire musical fort au tambour, au bois, en chanson. Dès qu'on se retrouve entre musiciens, entre jouteurs, on chante énormément. On connaît tous ces chansons-là. On les joue tous, on les chante, nos enfants les chantent, nos petits-enfants aussi. Moi, ma fille, notre fille aînée, qui a plus de 30 ans, elle joue du tambour depuis qu'elle est petite, elle connaît toutes ces chansons. Ses enfants les connaissent aussi. C'est pareil pour nous tous dans le milieu des joutes. Tous les jouteurs, jouteuses, musiciens, rameurs, tout le monde des joutes pratique ce répertoire. Pratique cette gestuelle qui est encore très forte quand il dit on se déplace en rice, par exemple, qui est une forme de déambulation très précise. Tout le monde sait le faire, tout le monde connaît, tout le monde sait à quel moment il faut lever les pavois, quelle couleur on doit avoir pour monter sur la barque rouge, la barque bleue. Enfin, bon, tout ça, c'est comme à Pézenas. Pourquoi, par exemple, c'est le poulain de Pézenas permet, c'est le cœur de cette ville grâce à cet animal totémique. Tout le répertoire qui va avec, toute la globalité de la culture, aussi bien les accents, l'accent est véhiculé encore aussi, hein. Les langues, les mots, c'est pareil dans les joutes. On a plein de mots, plein d'expressions qui circulent dans les joutes. Voilà. C'est quand même le cœur de cette culture qui a permis ça, de demeurer encore aujourd'hui excessivement vivant et qui n'est pas du tout entamé par la modernité. Enfin, ça reste moderne, mais c'est excessivement... Moi, je joue aux joutes depuis très longtemps. Je sais quel costume je dois mettre le jour des joutes. Enfin, je n'ai même pas besoin de m'opposer, de demander. Tous, on sait ça. On le sait. Ça a été transmis. Ça a été transmis. Ça, c'est très fort. Les joutes sont la chance. Comme à Pézenas, ça va être le poulain. Comme à Limoux, ça va être les fécosses de Limoux qui durent 10 semaines. Tout le monde sait ce que c'est. Les fécosses de Limoux qui durent 10 semaines à Limoux, ça concentre tous les pas, la danse, le mouvement, les chants, les rythmes, la musique, etc. Voilà, ça c'est la chance de Sète, ce sont les joutes.
Ce milieu. Nous continuerons à dire encore dans des siècles et des siècles, à Sète, c'est plus comme avant. Ils continueront, mais enfin, nous, vu de l'extérieur, moi franchement, je suis pas inquiet.
Non.
Pour la culture sétoise, la cuisine sétoise. Des gens sortent des livres sur la cuisine sétoise, par exemple.
Rien qu'à Escalassette, vous êtes peut-être à l'Escalassette. Bon, on voit tous les jouteurs jouer, on voit même tous certains rituels comme
le capellette.
Le capellette qui se fait toujours. Enfin, tous les ingrédients de la culture sétoise sont présents, même encore aujourd'hui, mais très fortement présents. C'est un rock.
Montpellier, la Surdoule.
Alors, Montpellier-la-Surdouée. Moi, je la connais.
Page 118.
C'est un ami qui est c'est toi qui l'a écrite, Philippe Carcassès, que vous connaissez peut-être. Elle est vraiment super. Okay. Hein, tu la connais, Sylvie, elle est super. C'est Sète qui se moque de Montpellier.
Dans le langue d'eau.
Comment ? Moi, je la connais pas trop.
Dans le langue d'eau. Les cailloux poussaient bien et les gens s'en
faisaient
faire que du vin.
Ah, c'est bien
que
tu la saches.
Dans les étangs, il y avait plein de moustiques et la malaille, c'est pas très hygiénique. Heureusement qu'autour du merdanson a bien grandi
infâme champignon. Oh oui, chantons ce lieu qui nous inonde de ses bienfaits, à 100 lieues à la ronde. Oh Montpellier, la surdouée, on t'appelle aussi le clapas, mais ça fait trop paysanas. Oh Montpellier, la surdouée, la ville des gens intelligents. On y parle pointu, c'est pas des abrutis. Antigone ou sur la comédie, dans cette ville heureuse camarade, il y a plus de mets, de cinq que de malades. À Montpellier, grand flambeau du progrès, il y a le quorum, le foot et le tramway, le multiplex, le zénith, oui ma belle, il manque plus qu'une autre tour Eiffel. Oh Montpellier, la surdouée, on t'appelle aussi Lou Clapas, mais pour toi ça manque de classe. Oh Montpellier, la surdouée, la ville des gens intelligents. Ton maire est dévoré d'une grande ambition, y a qu'à voir la taxe d'habitation. Dans pas longtemps, tu atteindras les plages, en rousigant tous les petits villages. Les hauts cantons, ça sera un désert, mais à corail, car le fric c'est la mer. Oui, grâce à toi, de partout, même à Sète, on sera bien plus snob qu'à la croisette. Oh Montpellier, la surdouée, on t'appelle aussi Lou Clapas, mais ça fait trop paysanas. Oh Montpellier, la surdouée, la ville des gens intelligents. Je languis chaque soir d'écouter France 3, car bien souvent on parle que de toi. Oh quelle grâce, tous ces journalistes partant comme Drucker assez patriste. À Montpellier, le style de ma chanson, c'est démodé comme la Madelon. Pardonne un peu à ma muse rustique de pas avoir le swing des Amériques. À Montpellier, la surdouée, on t'appelle aussi Lou Clapas, mais pour toi ça manque de classe. Au Montpellier, la surdouée, la ville des gens intelligents. Moral.
Ça c'est parlé.
Ne touchez pas le lèse, c'est la mer de fraîche.
Bon. Merci à vous. Merci.